France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Jusqu'à quel point Donald Trump et Vladimir Poutine sont-ils véritablement prêts à avancer sur la question d'un possible traité de paix avec l'Ukraine? L'échange entre les deux hommes hier n'a pas permis d'y répondre. Puis encore, puisque ce matin le président ukrainien accuse Moscou d'essayer de gagner du temps pour poursuivre son invasion, nous serons en Russie dès le début du journal. Face à l'effroi d'un monde qui décidément recule devant son humanité, on se demandera ce que la communauté internationale est capable ou non de faire pour stopper la violence aveugle du gouvernement israélien dans la bande de Gaza. On s'intéressera également à la situation humanitaire désastreuse dans l'enclave avec notre invitée Nathalie Boucli, secrétaire générale adjointe de l'UNRWA. L'actualité en France, c'est notamment le dernier interrogatoire ce matin de Joël Le Squarnec, l'ex-chirurgien poursuivi pour près de 300 viols et agressions sexuelles commis essentiellement sur de jeunes patients. Enfin, la Cour des comptes déplore que l'enseignement primaire soit aujourd'hui en décalage avec les besoins de l'enfant. L'institution qui rappelle que le niveau des écoliers en France est en baisse depuis maintenant 10 ans. Mais pour commencer, une bonne nouvelle, elles sont tellement rares. Après 3 longues années de négociations souvent difficiles, le monde s'est doté ce matin d'un traité historique sur la prévention et la lutte contre les pandémies. Le texte était soumis devant l'Assemblée mondiale des pays membres de l'Organisation mondiale de la santé. Il a été adopté à la quasi-unanimité, l'Argentine n'ayant pas jugé utile d'envoyer de délégués sur place et étant entendu par ailleurs que les États-Unis s'étaient eux retirés des négociations après la décision de Donald Trump de quitter l'OMS. Alors concrètement, ce texte vise à garantir un accès équitable aux produits de santé en cas de pandémie. Plusieurs points restent toutefois en suspens et notamment les détails du mécanisme qui devront encore être négociés d'ici l'an prochain afin que l'accord puisse être définitivement ratifié. Les précisions depuis Genève du correspondant de RFI pour France Culture, Jérémy Lanche.
Le texte propose des avancées notables sur la détection précoce des épidémies, sur le lien entre santé humaine, animale et l'environnement, sur les devoirs des groupes pharmaceutiques qui reçoivent des financements publics et mettraient au point des vaccins. En revanche, aucune obligation pour ces mêmes groupes de partager leurs technologies avec les pays du Sud. C'était l'un des gros enjeux des négociations et c'est une déception pour Michel Kazatchkine, ex-patron du Fonds mondial, mandaté par l'OMS pour évaluer sa gestion du Covid.
Pour moi, c'est un texte trop faible et l'article Le 12 dit que ce transfert de technologie, c'est finalement un contrat entre un plus puissant qui détient la technologie et un moins puissant qui ne la détient pas. Chaque région du monde doit pouvoir être équipée de l'ensemble des technologies qui permettent de fabriquer des vaccins.
Autre déception pour les partisans d'une approche plus offensive, les modalités de partage des traitements et vaccins pour les pays pauvres qui auraient découvert et rendu accessible le génome d'un virus. Là encore, c'est la version minimaliste qui a été retenue et elle doit encore être négocier. Dans le meilleur des cas, le traité pourrait ne pas rentrer en vigueur avant au moins 3 ans. Le temps presse donc si les États veulent éviter de revivre le chaos des débuts du Covid et une nouvelle course au vaccin.
Plus de 2 heures d'entretien au téléphone et au final, aucun résultat tangible.
Après son appel à Vladimir Poutine, le troisième depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a bien laissé entendre hier que l'Ukraine et la Russie allaient, je cite, « démarrer immédiatement des négociations en vue d'un cessez-le-feu ». Sauf qu'aucune précision n'a été apportée quant au fait de savoir où et quand se dérouleraient de telles négociations. Par ailleurs, les soi-disant menaces de sanctions supplémentaires sur la Russie semblent avoir été totalement oubliées par Washington. Et puis surtout, si le président américain est sans doute en effet pressé d'en finir, son homologue russe reste en revanche persuadé que le temps travaille pour lui. Et d'ailleurs, sur le terrain, tout indique que l'armée du Kremlin n'a pour l'heure aucune espèce d'intention de freiner ses assauts. Bien au contraire, puisque le week-end dernier encore, la Russie a même lancé la plus importante attaque de drones contre son voisin depuis le début de l'invasion. Bref, de l'avis de très nombreux observateurs, cette déclaration hier de Donald Trump ressemblait probablement davantage à un retrait du médiateur américain, lequel semble l'avoir enfin compris à ses dépens. On ne traverse pas un champ de mine en quelques enjambées, pas plus qu'on ne règle une guerre en 2 serments et 3 coups de fil. En attendant, ce matin en Russie, la presse jubile. Les précisions de notre correspondant Sylvain Tronchet.
Trump a trahi l'Ukraine. La conversation entre les présidents russes et américains a stupéfié les alliés de Zelensky. Le tabloïd pro-Kremlin, comme Somolskaya Pravda, jubile en titre ce matin. Le président américain n'a fait aucune mention de sanctions contre notre pays. Au contraire, il a insisté sur l'énorme potentiel de coopération. Son concurrent, Moskovski, comme Somolets, est sur la même ligne. Le crash n'a pas eu lieu. Les ennemis de la Russie sont restés sur leur faim. La télévision gouvernementale Pierre-Vie Canal souligne souligne, elle, le ton et l'esprit remarquable de la conversation qui s'est déroulée hier et met en exergue cette phrase de Vladimir Poutine « Nous sommes sur la bonne voie pour beaucoup de médias russes ce matin, c'est la normalisation des relations avec les États-Unis depuis l'arrivée de Donald Trump ». Interrogé par l'agence TASS, le vice-président du Sénat russe, Konstantin Kosachev, estime qu'il y a désormais deux groupes de discussion, un groupe russo-américain et un groupe ukraino-européen. Pour lui, seul le premier parle de la paix, mais aux conditions de la Russie.
Et c'est donc dans ce contexte que les grands argentiers du G7 se réunissent à partir d'aujourd'hui au Canada avec un invité spécial, le ministre des Finances ukrainien, augurant de discussions autour de la guerre avec la Russie, pourquoi pas d'éventuelles sanctions contre Moscou.
Et puis l'autre conflit qui occupera certainement les esprits est lui commercial.
Oui, même si Donald Trump a récemment fait marche arrière, les taxes sur les produits importés restent encore nettement plus élevées qu'avant son retour à la Maison Blanche, faisant craindre un ralentissement économique généralisé, autant dire que derrière les sourires de circonstance, la photo de famille des membres des 7 grandes démocraties industrialisées risque d'être en partie ternie par l'augmentation des motifs de division instillés par la nouvelle administration américaine. Enfin, s'agissant toujours d'économie mondiale, la banque centrale chinoise a, elle, abaissé ce matin ses 2 taux d'intérêt de référence à des niveaux historiquement bas, soit le dernier effort en date des autorités pour stimuler la croissance sur fond de tensions commerciales avec Washington d'une part et de crise du secteur immobilier d'autre part.
Encore 44 morts ce matin et 150 pour la seule journée d'hier.
Sans compter les dizaines de victimes portées disparues sous les décombres des maisons bombardées. Dans la bande de Gaza, l'offensive à grande échelle se poursuit, preuve que l'ouverture hier d'une infime brèche dans le blocage de l'aide humanitaire sous la pression internationale et malgré la ferme opposition des cercles de l'extrême droite israélienne ne doit en rien contrarier l'objectif final des autorités, parvenir au contrôle total de toute l'enclave palestinienne. Les mots du ministre des Finances, figure de la droite suprémaciste au sein du gouvernement de Benjamin Netanyahu, ne laissent d'ailleurs aucune place au doute. Maintenant, nous conquérons, nous nettoyons et nous restons. Et en chemin, ce qui reste de la bande de Gaza est anéanti. À ce déchaînement de haine répondent ce matin les mots sans ambiguïté du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. La violence aveugle du gouvernement israélien en violation absolue de toutes les règles du droit international a fait de Gaza un mouroir, pour ne pas dire un cimetière. La veille déjà, dans une déclaration commune, le président français Emmanuel Macron et les premiers ministres britanniques et canadiens avaient prévenu qu'ils ne resteraient pas les bras croisés face aux actions, je cite, scandaleuses du gouvernement israélien. Alors que faut-il en déduire? Concrètement, que peuvent faire les Européens? Omar Waman a posé la question à Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales et professeur émérite à Sciences Po.
En réalité, ils peuvent faire beaucoup de choses parce que les relations entre Israël et l'Union Européenne sont extrêmement denses. Il y a un accord dont le titre est révélateur, de stabilisation et d'association, qui a été signé entre l'Union européenne et Israël en novembre 1995 et qui couvre des secteurs vitaux pour Israël. Il ne faut pas oublier que l'Europe est le premier partenaire commercial d'Israël et que Israël a des exportations vers l'Europe qui couvrent à peu près 40% de ses exportations. Le levier commercial est donc décisif. Si celui-ci est utilisé, la pression exercée sur Tel Aviv sera déterminante et en tous les cas comparable à celle que les sanctions européennes contre la Russie ont pu avoir depuis le début du conflit russo-ukrainien. Est-ce qu'elle le veut? Et c'est ça la véritable question. D'abord, les 27 sont divisés. Au-delà même de ces différences, il y a un choix politique. Si Israël est sanctionné de manière significative, ça sera pour la première fois dans l'histoire. Donc le risque politique est réel, mais il faut pas oublier une chose, c'est que si l'Europe ne sanctionne pas Israël, c'est toute sa politique de dénonciation du rôle joué par la Russie en Europe qui s'en trouvera décrédibilisée. Comment peut-on sanctionner l'un sans sanctionner l'autre ?
Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po, il répondait à Omar Waman. Et pour évoquer à présent la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, après plus de 19 mois d'une guerre totale, invité de la rédaction Nathalie Boucli, commissaire générale adjointe de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Bonjour madame.
Bonjour.
Je précise que vous êtes en direct d'Amman, en Jordanie. Hier, 9 camions d'aide humanitaire des Nations Unies ont été autorisés à entrer dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, ce nombre a été porté à 100, ce qui reste encore largement insuffisant pour compenser 11 semaines d'un blocus total. Comment interprétez-vous cette décision? Faut-il y voir un début d'amélioration ou bien diriez-vous qu'au regard de l'ampleur des besoins, ce geste relève d'une forme de cynisme?
Écoutez, la situation est la suivante, c'est que depuis le 2 mars, les seules choses qui sont entrées à Gaza, ce sont des bombes. Il n'y a absolument rien qui est entré dans la bande de Gaza en tant que médicaments ou assistance alimentaire, aide alimentaire, kit d'hygiène pour la population, qui se retrouve donc dans un état de siège total. Une population désespérée qui est aussi sous les ordres d'évacuation constants et qui a été amassée dans des endroits qui ne sont pas, qui sont absolument pas sécurisés. Avant la guerre, il y avait entre 500 et 600 camions qui rentraient par jour. Donc d'avoir en fait 5 camions qui ont été autorisés à entrer, mais je dois souligner, n'ont pas encore atteint les bénéficiaires, 5 camions ou 9 camions, c'est largement en deçà des besoins d'une population de 2 millions de personnes qui font face à une famine imminente.
Justement, très concrètement, quel constat peut-on dresser de la situation humanitaire sur place? Jusqu'à quel point la population de Gaza est-elle effectivement confrontée à la famine? Ou dit autrement, à quelles conditions est-il possible ou pas de se nourrir aujourd'hui dans l'enclave?
Mais comme j'ai dit, il n'y a absolument rien qui est entré dans la bande de Gaza, alors que c'est un territoire qui est sous blocus, hein, et donc il y a besoin d'avoir des entrées commerciales, mais aussi des entrées d'aide. La population se retrouve dans un état d'affamement, en fait. Il n'est pas de mon ressort de dire s'il y a une famine aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est que la méthodologie de la classification de la sécurité alimentaire intégrée, qui est une méthodologie des Nations Unies, a déjà le 12 mai publié certains résultats provisoires en disant qu'un demi-million de personnes à Gaza font face à des niveaux d'affamement aigus et que toute la population expérience en ce moment, ressent une insécurité alimentaire aiguë. La situation ne s'est que détériorée depuis cette date. Et elle va continuer à se détériorer si on n'a pas de l'aide qui rentre, comme pendant le cessez-le-feu, pour nourrir les femmes, les bébés, les enfants et les hommes, la population civile de Gaza.
Alors, il se trouve que la semaine dernière, une ONG soutenue par les États-Unis a annoncé son intention de mettre en place un grand plan d'action humanitaire dans la bande de Gaza en accord avec les autorités israéliennes. Cette initiative a quasiment aussitôt suscité la perplexité de nombreuses ONG. L'ONU elle-même refuse d'ailleurs de s'associer à cette fondation. En quoi cette initiative dérogerait au principe de l'aide humanitaire ?
Tout à fait. Cette initiative, en fait, prévoit donc qu'il y ait des sites de distribution sécurisés, gardés par des sociétés de sécurité privées et situés en dehors, si vous voulez, des cadres de coordination humanitaire établis. L'aide humanitaire doit respecter les principes humanitaires qui sont neutralité, humanité, indépendance et neutralité. Elle doit être efficace et neutre. Or là, nous assistons à une militarisation ou une instrumentalisation de l'aide où cette ONG déciderait qui aurait droit à quoi et surtout avec des rations très minimum. Les Nations Unies, y compris UNRWA, l'organisation pour laquelle je travaille et que je représente, on a depuis la naissance des Nations Unies, nous avons des mécanismes avérés en place qui ont fait preuve de par le monde de leur efficacité par rapport à l'acheminement de l'aide, qu'on nous laisse faire notre travail selon les principes humanitaires. C'est ce qu'on a fait pendant le cessez-le-feu avec succès. Les gens ont pu se réapprovisionner. Il s'est passé qu'il y a aussi les campagnes de vaccination qui ont été aussi faites avec succès. Or, cette ONG ne se conforme absolument pas à la façon dont les ONG traditionnelles et les Nations Unies acheminent l'aide.
Madame Bouklim, dernière question, je le disais en introduction, conformément donc au plan entériné par le gouvernement israélien, l'armée a déclenché une nouvelle phase d'opération de grande ampleur, contraignant donc les Gazaouis à se réfugier dans une zone d'une superficie d'environ 360 km², c'est-à-dire moins d'un quart de l'enclave palestinienne. Est-ce que le but désormais ouvertement affiché, assumé du Premier ministre Netanyahou de prendre le contrôle de toute la bande de Gaza vous a surpris?
Je ne suis pas là pour faire des commentaires sur la façon dont les parties à un conflit conduisent leurs opérations. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous ces ordres de déplacement, donc le déplacement forcé de la population enfreint le droit international et a été condamné au plus haut niveau des Nations Unies par le secrétaire général.
Et on terminera par ces mots. Merci Nathalie Boucli, commissaire générale adjointe de l'UNRWA, d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui en direct de Amman en Jordanie. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Midi passé de 45 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
C'est aujourd'hui que doivent débuter les plaidoiries des parties civiles au procès de l'ex-chirurgien Joël Le Squarnec, poursuivi pour près de 300 viols et agressions sexuelles. Mais avant cela, la Cour a tenu à procéder ce matin à un interrogatoire récapitulatif de l'accusé, lequel Florence Turm a de nouveau affirmé avoir pris la mesure des souffrances qu'il a provoquées chez ses victimes.
Au cours du procès, Joël Le Squarnec a reconnu l'intégralité des faits, viols et agressions sexuelles qui lui sont reprochés. La question de la culpabilité ne se pose donc plus pour la Cour. Souhaitez-vous dresser un bilan de ces 3 mois d'audience, lui demande la présidente. L'accusé se lève, front ridé, voix traînante, parfois un peu étranglée. C'est la souffrance des victimes dont j'ai pris la mesure. J'ai dévasté leur vie, c'est effroyable. Il vous arrive de penser à certaines en particulier. Joël Le Squarnec a demandé pardon à toutes celles qui se sont présentées à la barre, mais ne peut toujours pas mettre de visage sur les noms qu'il a consignés dans ses carnets avec des détails insoutenables. Aujourd'hui, il évoque un prénom, Matisse, ce petit garçon qui s'est donné la mort ensuite et dont les grands-parents ont projeté la photo dans la salle d'audience vendredi dernier. Des choses que vous avez apprises sur vous, reprend la présidente Aude Burezi. Elle évoque l'absence d'altérité mentionnée par les experts. L'altérité n'existait pas chez moi, reconnaît Joël Le Squarnec, mais au fur et à mesure de ce procès, j'ai vu des êtres humains comme moi, avec leur colère et leur désarroi, des personnes que j'ai fait souffrir, je ne peux plus me regarder de la même façon. J'ai devant moi deux mots, pédocriminels et violeurs d'enfants. Cela, j'ai beaucoup de mal à le supporter. Vous vous projetez dans une vie d'homme libre ? Il secoue la tête. Non. Non. Les psychiatres et les psychologues s'interrogent encore sur son risque de récidive. Joël Le Squarnec affirme que plus jamais il ne pourrait porter la main sur un enfant. Mais, ajoute-t-il, si l'on considère ce que j'ai été, c'est une condamnation à perpétuité qu'il faudrait prononcer. Il encourt en réalité 20 ans de réclusion criminelle.
Et je précise que le verdict est attendu le 28 mai prochain.
Le fonctionnement de l'enseignement primaire en France est en décalage avec les besoins des élèves.
Oui, malgré une augmentation constante ces 10 dernières années de la dépense consacrée à l'école maternelle et élémentaire, le niveau des élèves a suivi une tendance inverse. C'est ce que déplore la Cour des comptes dans un rapport publié ce matin, laquelle évoque une situation d'échec. Alors pour expliquer ce déclin des performances scolaires des élèves, l'institution souligne que la France dépense moins que les autres pays, mais pas seulement Hakim Kasmi, puisqu'elle critique également l'organisation des rythmes scolaires et notamment la semaine de 4 jours.
Oui Thomas, malgré la hausse des dépenses dans l'école, plus 6 milliards d'euros sur 10 ans, les résultats de nos élèves dans le primaire ne sont pas au rendez-vous, particulièrement en français et en mathématiques, où ils font partie des moins bons des pays de l'Union Européenne. Alors pour y remédier, la Cour des comptes préconise notamment de revenir sur le temps scolaire avec le retour de la semaine à 4 jours et demi. Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes.
Nous pensons qu'il faut envisager de revenir progressivement, de manière concertée, intelligente, vers une semaine de 4 jours et demi, non pas par idéologie, mais simplement pour l'intérêt des enfants et pour leur capacité à apprendre.
Les sages de la Rue Cambon qui préconisent aussi de revoir le statut des directeurs d'école avec la mise en place d'un contrat d'objectifs et de moyens, mais surtout de leur retirer les temps de décharge devant élèves, ce qui aujourd'hui n'était le cas que dans les grandes écoles où il y avait plus de 10 classes. Pierre Moscovici.
Nos directeurs d'école, c'est très archaïque au fond, leur statut, qui est très imprécis, repose sur des décharges qui sont elles aussi inégales, qui sont souvent partielles. Nous proposons d'aller progressivement vers un statut du directeur d'école et en tout cas vers une décharge complète d'enseignement qui lui permette à ce directeur ou à cette directrice de se concentrer sur ce qui est son métier essentiel, c'est-à-dire l'animation de l'équipe.
Enfin, pour lutter contre la crise des vocations et les problèmes d'attractivité dans l'enseignement, la Cour des comptes préconise également que les enseignants ne soient plus recrutés à l'échelle académique, mais départementale.
Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, le milliardaire Pierre-Édouard Sterrin ne s'est pas présenté ce matin à l'Assemblée devant la commission d'enquête sur l'organisation des élections en France et notamment les problèmes d'inscription des citoyens sur les listes électorales et d'éventuelles défaillances des instituts de sondage pendant les campagnes. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec du soleil au nord d'une diagonale Bordeaux-Strasbourg. Au sud, en revanche, le ciel sera le plus souvent gris et humide avec une forte instabilité orageuse entre la Corse et la Provence. Quant aux températures, elles seront comprises entre 16 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.